Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirol de 48FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour cette 18e émission de Allo Tibet, en compagnie de Ludovic, fidèle rédacteur en chef de 48FM. Et nous tenons à le remercier chaleureusement, car il soutient l'émission. Et nous retrouvons également Lacham Gyal, donc l'auteur de « En attendant la neige ». Si vous vous souvenez, la vie des enfants a grandement changé à Marnang, le village, puisque maintenant, ils ont un maître d'école, maître Lodreux. Et là, dans cette scène, nous nous trouvons à l'intérieur de la maison, avec des échanges très éclairants, très intéressants. Je vous donne quelques éléments quand même pour... on va entendre parler du hall d'assemblée. Vous savez que chaque village, même dans les coins reculés, et dont il s'agit ici, justement... Chaque village a son référent moral, philosophique, qui est en fait le monastère, le petit monastère local. Avec donc le hall d'assemblée, c'est le lieu où se déroulent les débats. Alors les débats, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité de ces écoles bouddhiques. Ce sont des entraînements à la phénoménologie. Vous savez donc l'étude, la discussion sur les éléments qui forment la connaissance humaine. Donc les perceptions, comment on perçoit le monde. Les représentations mentales, la logique, c'est-à-dire comment on associe sur un plan logique les éléments, et évidemment les controverses, parce que ça, tout se discute. Voilà. Donc, ce sont, si vous voulez, en direct, nous sommes en direct avec Spinoza et Husserl avant la lettre, avec ces philosophes religieux, bien entendu. Alors, une des spécialités, donc c'est vraiment une des spécialités les plus spectaculaires. Ce sont ces débats entre moines, si vous voulez. Quand on dit moines, c'est l'équivalent de docteur en philosophie. Ils ont fait plus de 10 ans d'études à partir des textes. Hein. Donc, l'idée, c'est en fait, le but de ces débats, c'est de développer l'esprit critique, d'apprendre à accueillir les arguments de l'autre, pas pour le détruire, hein, mais pour accueillir et discuter, tout simplement. Donc, prendre du recul, valider les arguments, les réfuter, etc. Et même, c'est considéré souvent, enfin en général, comme un spectacle quasi théâtral, parce que c'est très ritualisé, bruyant, drôle. Enfin, c'est vraiment... On voit pas mal de reportages, hein, si vous avez cette curiosité-là, vous en trouverez. Et ensuite, le grand B, c'est qu'on a des débats entre régions, parfois même au niveau national ou international. Ma mère, tout en disant cela, a remis de l'huile dans le réservoir de la lampe qui s'est alors rallumée, emplissant instantanément la pièce de lumière. Dans mes souvenirs, les soirées de mon enfance se passaient à la faible lueur de la lampe à huile. Toute la famille dînait sous son halo de lumière quand on buvait notre tupa. Ma bouche ne pouvait aller lentement. J'engloutissais bruyamment autant de gorgées que je pouvais et pendant quelque temps, l'énergie de la tukpa me faisait transpirer tout le corps. J'avais déjà englouti 2 bols de soupe d'affilée quand mes 2 sœurs et mes parents n'avaient pas encore fini leur premier. Ma sœur Juki a donc tapoté ma tête avec ses baguettes. « Mange lentement, personne ne va te la prendre !» Quand elle m'a tapé sur la tête avec les baguettes, ça m'a rappelé comment mettre l'eau de jeu en journée, avait donné un coup de badine sur la tête de Nima Dunjoub. Du coup, j'ai arrêté de manger ma soupe et, tout en riant, j'ai raconté à la famille ce qui s'était passé dans la journée. Puis j'ai demandé « C'est vrai que Nima Dunjoub va se faire moine ? Mange, tu parleras ensuite !» m'a rétorqué ma sœur Lumotar, ce qui m'a cloué le bec. tout en buvant sa soupe en penchant la tête, ma mère a demandé à mon père. En désherbant, j'ai vu oncle Toupten du monastère aller au village. Rien de spécial ne l'a mené. Il est venu pour la construction du hall d'assemblée du monastère, a dit mon père en tendant son bol et il a ajouté. Il est aussi question maintenant de rechercher la réincarnation de Culot de Marnang. Depuis que la politique est favorable, les moines ont de plus en plus à faire. L'honorable Culot de Marnang ne nous a-t-il pas quittés depuis de longues années ? Si on cherche maintenant sa réincarnation, il doit avoir dans les 6 ou 7 ans à tous les coups, a dit ma mère en versant de la tupa dans le bol de mon père. Absolument, dans le temps, Toupten a été le principal accusateur de l'honorable Culot. Il lui a fait porter un chapeau d'infamie. Il a même craché sur l'honorable visage de Culot. Et maintenant, voilà qu'il parle de rechercher sa réincarnation. Il s'est mis à bavarder tout en savourant son repas. Moi, à ce stade, j'ai encore englouti un bol. Les adultes discutaient sans répit. Alors je lui ai dit « Mangez, vous parlerez ensuite !» Ils sont partis à rire. Comme ils étaient joyeux, les rires dans notre petite pièce en bois, ce soir-là. Quelques aboiements rompaient de temps en temps le calme, tandis que la rivière en contrebas du village de Marnang s'écoulait en gazouillant dans le noir, vers le bas de la vallée. L'automne doré s'est invité au village de Marnang. L'automne, selon l'expression de ma mère, était une saison où les vieux n'avaient pas le loisir de mourir et les enfants n'avaient pas le temps de jouer. C'était en effet une période où tout le monde était très affairé. Au fond, c'est sûrement vrai de toutes les périodes où on récolte les fruits de son labeur. Juste avant ça, on avait été en ébullition à cause des contrôles de fin d'année et on s'était évertué à apprendre par cœur, le matin comme le soir, les 30 consonnes et les 4 voyelles. Ce jour-là, maître Lodjeu, badine en main, a fait la paix dans la cour et a convié chacun individuellement dans la classe. Il fallait d'abord lui réciter par cœur, haut et fort, les 34 lettres consonnes et voyelles tibétaines, puis écrire de mémoire chacune des 34 lettres consonnes et voyelles avec une craie blanche au tableau. Les occasions d'écrire à la craie au tableau étaient d'habitude très rares. À partir du jour où les dessins très spéciaux de Tarfel au tableau lui avaient attiré les coups de badine de maître Lodjeu, les enfants avaient eu si peur qu'aucun n'avait plus osé écrire à la craie au tableau. Et de fait, maître Lodjeu économisait les craies et conservait dans une boîte en carton même les bouts de craie cassés. Pour l'examen, maître Lodjeu a attribué une note à chaque élève et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé pour de bon, dans notre vie, la notation de l'acquisition des connaissances. En fin de compte, j'ai obtenu la note la plus élevée. Tarfel n'avait pas pu mémoriser plus de la moitié des 34 lettres et il a eu la note la plus basse. Après que maître Lodreux nous a fait ainsi passer l'examen, il nous a envoyés en vacances d'été, a fermé la porte de l'école avec une grosse clé en fer, puis il est parti tout droit en direction des champs en contrebas du village. Des femmes en foulard rouge et des hommes en chapeau de paille moissonnaient avec effervescence les champs en contrebas de Marnang. Ils fauchaient et empilaient les gerbes de blé sur des carrioles ou les chargeaient sur des ânes, puis ils les transportaient vers les aires de battage. En automne, où chaque personne travaillait pour deux, eux aussi aidaient de leur mieux à empiler les gerbes de blé sur l'aire de battage ou encore à porter des thermos dans les champs. Nous, les enfants, on n'avait pas non plus le temps de jouer. On courait en nage derrière les vaches qui détalaient, quelevaient, folâtrant, tandis que d'autres ramassaient des épis dans les champs. L'automne, c'était vraiment une saison où on était tous extrêmement affairés. Mais ce moment où tous étaient affairés était de courte durée. Grâce à leur ardeur au travail, les villageois de Marnang avaient empilé la récolte sur les aires de battage et le village était jonché de paille à l'issue des moissons. Le bétail, qu'on avait retenu sur les crêtes, paissait désormais à sa guise dans les parties cultivées du village et la vie retrouvait peu à peu sa routine. Thank you. Et nous reprenons la vie de Milarepa, vous vous souvenez, le grand sage tibétain. Sa vie romancée d'après les premiers écrits de son disciple Rishungpa, édition Fayard, traduction Jacques Bacot. Alors je donne un peu l'historique du texte. Enfin, voilà. Alors, le texte sera repris au XIVe siècle, le texte que nous lisons. Les travaux plus récents, j'ai découvert ça, les travaux plus récents, par exemple l'étude Histoire et philologie tibétaine de l'université Ariane Spanienne, montrent qu'il existe que l'auteur du texte tel que nous connaissons est Tsangnyen Eruka, 1452-1507, donc un moine bouddhiste maître édition Kagyupa, qui a aussi rédigé la biographie de Marpa, le traducteur. Vous découvrirez rapidement Marpa, donc le maître en philosophie de Milarepa. Et le Namtar, donc la vie, la biographie romancée, si vous voulez, fut composée sous, et achevée bon, en xylographie à l'Asteleu en 1488, donc 365 ans après la mort de Milarepa. Alors, dans cet extrait, nous allons voir les conséquences pratiques de la magie destructrice opérée à distance par Milarepa avec l'aide du sorcier lama Yungton, qui est donc un religieux. Le lama, c'est, si on étudie le terme en tibétain, c'est la mère de l'esprit supérieur, l'âme, le mère de l'âme ou de l'esprit supérieur, qui est donné souvent comme un prêtre bun, la religion tibétaine qui a précédé le bouddhisme historique. On a ainsi un contexte, là vous allez voir, qu'on ne peut pas vraiment développer, mais qui fait se rejoindre la magie, la médecine naturelle, les pouvoirs de divination. Mais j'ai trouvé quand même quelques éléments un peu explicatifs, intéressants, dans les open source, vous savez. Dans l'annuaire de l'EPHE, dans la section des sciences historiques philosophiques, l'histoire et philologie tibétaine, un de Charles Ramble, qui est un très grand auteur, professeur également, donc directeur d'études à l'EPHE, donc l'école pratique des hautes études, en section sciences historiques, et qui est également enseignant de tibétain. Voilà ce qu'il dit. Par rapport à un texte, hein, qui n'est pas le nôtre bien sûr, mais un autre texte. Les principales sources sont le Sangwa Sentub, un texte trésor, qu'on appelle Terma en tibétain, qui aurait été révélé par le découvreur de trésors Terten, c'est le nom, Shenshen Luga en 1108 après Jésus-Christ, et le Chogyu, un ensemble de six tantras dont trois versions auraient été découvertes au 11e et 12e siècle et dont deux seulement nous sont parvenues. Donc ce sont des textes qui font état d'expériences magiques, enfin assez spéciales, vous allez voir. Donc là je cite le texte de Charles Ramble, hein, qui est le manuscrit de Charles Ramble. Quand Bemon Tagwerliwer le pratiquait, des tigres, des léopards, des ours noirs et des ours bruns se sont présentés devant elle comme des veaux et des moutons. Elle pouvait parler une langue humaine avec les esprits serpents. Et à l'âge de 360 ans, elle a atteint l'illumination sans laisser de reste corporel. Un autre extrait. Lorsque Sanego de Zhangzhung a pratiqué le tantra, il a pu guérir la lèpre et d'autres maladies, prévenir les chutes de neige, les blizzards et les violentes tempêtes. Quand Peben Toktse le pratiquait, il pouvait chevaucher des yaks sauvages et des esprits aquatiques. Il pouvait contraindre des démons mineurs à faire ce qu'il voulait. À l'âge de 310 ans, il est mort sans laisser de traces corporelles sur Terre. Ma sœur Peta, voyant tout le monde qui se lamentait dehors, courut bien vite près de sa mère. « Mère, mère, la maison de l'oncle s'est écroulée et beaucoup d'hommes sont morts. Viens voir. » Ma mère, se demandant si c'était vrai, eut un cri de joie, se leva et alla voir. Elle vit la maison de mon oncle réduite en un nuage de poussière et toute la vallée plongée dans les larmes. Aussi heureuse qu'étonnée, elle ficha un lambeau de vêtements au bout d'un long bâton et l'agitant en l'air, elle crie à haute voix « Gloire à vous, Dieu, lama et trois joyaux, et bien, gens du pays et voisins. Trophée de sagesse, a-t-il un fils ?» Moi, parure blanche, je suis vêtue de haillons, je mange de la mauvaise nourriture. Voyez-vous que c'était pour nourrir mon fils ? Autrefois, l'oncle et la tante nous disaient « Mères et enfants, si vous êtes nombreux, faites-nous donc la guerre. Si vous êtes peu nombreux, jetez-nous des sorts. » Et voilà que nous avons plus obtenu, peu nombreux, par la magie, que nous n'eussions fait plus nombreux par la guerre. Voyez les hommes qui étaient en haut dans la maison, voyez le bétail qui était en bas dans l'écurie, voyez les richesses qui étaient au milieu. Puissais-je encore vivre longtemps, car le moment est venu de contempler un tel spectacle offert par mon fils. Voyez quel sera mon bonheur à partir d'aujourd'hui. Tous ceux même qui étaient dans leur maison entendirent ma mère crier sa vengeance. Quelques-uns dirent « Elle a raison ». D'autres dirent « Il est vrai qu'elle a raison, mais elle parle trop ». Tous, entendant par quel pouvoir les hommes étaient morts, se rassemblèrent et dirent « Non contente d'avoir provoqué ce désastre, elle s'en réjouit encore, c'est trop inconvenant. Après qu'elle a envoyé ses multiples douleurs, il faut lui arracher vivante son cœur tout sanglant. » Les anciens dirent « À quoi bon la tuer ? Ce qui nous arrive est en vérité le fait de son fils. C'est pourquoi il vous faut d'abord trouver son fils et faites en sorte de le lapider. Après, il vous sera aisé de tuer la mère. » Disant ainsi, ils furent d'accord. L'oncle, ayant entendu ce propos, parla « Mes fils et mes filles n'ont plus à mourir. Que ne suis-je mort aussi ?» Et il alla pour tuer ma mère. Mais les gens du pays l'arrêtèrent, disant « C'est parce que tu as manqué à ta parole d'autrefois que ce malheur est arrivé au pays. Si maintenant tu agis ainsi avant d'avoir tué le fils, nous te combattrons. » Et ils ne laissèrent à l'oncle aucun moyen d'agir. Alors les gens du pays se concertèrent pour me faire tuer. Mon oncle maternel alla chez ma mère et lui dit « Après tes paroles et ta conduite d'hier, les gens du pays sont prêts à te lapider, toi et ton fils. Que peux-tu faire contre eux ? Le sortilège suffisait. » Ainsi, il la réprimandait grandement. Ma mère lui répondit « La mauvaise fortune n'a pas été sur toi. Je sais bien tout cela, mais après la façon dont ils ont volé mes biens, il est difficile de ne rien dire. » Et sans répondre autre chose, elle pleura. Son frère reprit « Il est vrai que tu as raison, mais de crainte que les assassins ne viennent, enferme-toi bien. » Ayant dit, il partit. Et ma mère, se tenant enfermée, se mit à songer et à réfléchir. Cependant, la servante de mon oncle, qui avait été la mienne autrefois, ayant entendu les gens délibérer entre eux, ne put, dans son attachement pour ma famille, tolérer cela. Elle alla dire en secret à ma mère ce qui avait été décidé en conseil, et elle lui recommanda de veiller sur la vie de son fils. Ma mère songea par elle. Cette délibération met pour un moment une trêve à ma joie. Elle vendit une moitié du champ petit à petit de peau de bête et elle en retira 7 onces d'or. Comme il n'y avait aucun homme du pays qu'elle pût envoyer, comme il n'était arrivé aucun courrier d'ailleurs, ma mère songeait à aller elle-même me voir, me porter des provisions et me donner des conseils. À ce moment, un ermite de la province centrale, qui revenait d'un pèlerinage au Népal, vint à passer en mendiant. Ma mère lui demanda son histoire. Il était apte à faire un messager. Ma mère lui dit « Reste ici quelques jours, j'ai un fils qui se trouve dans Lutsang et j'ai quelques nouvelles à lui envoyer. Sois assez bon pour les lui porter. » Cependant, ma mère lui donnait une agréable hospitalité. Puis, ayant allumé une lampe à beurre, elle fit cette imprécation « Fasse le lama de bonnes nouvelles et les dieux protecteurs, que si mon désir est exaucé, cette lampe brûle longtemps. » Que s'il n'est pas exaucé, cette lampe meurt rapidement. » La lampe dura un jour et une nuit. Ma mère, croyant alors que son désir serait accompli, dit au pèlerin « Ermite, pour parcourir les royaumes, le vêtement et les bottes sont une grande importance. C'est pourquoi fais des pièces et des semelles. » Et elle lui donna une pièce de cuir pour les bottes. Elle-même mit les pièces au manteau usé qu'il avait. À l'insu de l'ermite, elle cacha les 7 onces d'or au milieu du dos de son manteau. Par-dessus, elle cousit une pièce carrée d'étoffe noire. Au centre, elle recouvrit cette pièce avec des étoiles en point de gros fil blanc, figurant la constellation des Pléiades, mais de manière qu'on ne la vit pas de l'extérieur. Puis elle donna à l'ermite un bon paiement, elle lui confia une lettre scellée en écriture secrète, et elle le congédia. Ensuite, ma mère fit ses réflexions. Comme je ne sais ce que les gens du pays, dans leur délibération, ont décidé de faire, il faut que j'aie l'air menaçant. Elle fit donc la leçon à Péta. Annonce à tout le monde que cet ermite m'a apporté une lettre de ton frère. Et voici la lettre que fit ma mère, comme si elle venait de moi. Sans doute, ma mère et ma sœur sont en bonne santé et elles ont vu la manifestation de magie. Si les gens du pays continuent à vous montrer une haine particulière, envoyez-moi par écrit leur nom et celui de leur famille. Par le moyen des sortilèges, il me sera aussi facile de les faire mourir que de jeter en l'air une pincée de nourriture. Ainsi, je les détruirai jusqu'au 9e degré de parenté. Si les gens du pays vous sont généralement hostiles, partez, mère et fille, et venez me rejoindre ici. Je détruirai ce pays jusqu'à ses vestiges. J'ai du bien-être et des vivres sans mesure. Ne vous tourmentez pas de ce que je suis dans la réclusion. Ayant écrit ceci, ma mère plia la lettre. Elle la montra d'abord à son frère et à ses amis. Puis, la laissant entre les mains de son frère, elle fit en sorte que tout le monde la vit. Alors, tous changèrent de sentiment. Renonçant au projet de nous lapider, ils reprirent à mon oncle le champ Orma triangulaire et ils le rendirent à ma mère. Cependant, l'ermite venait à ma recherche. Apprenant que j'étais à Noubkoulung, il m'y trouva. Il me raconta les nouvelles de ma mère, de ma sœur et du pays. Il me donna la lettre et je m'en fus à l'écart pour la lire. J'espère, bonne nouvelle, que tu es en bonne santé. Le désir de ta vieille mère d'avoir un fils est réalisé. La descendance de ton père, Mila Trophée de Sagesse, est assurée. Les signes de ta magie sont apparus au pays. 35 hommes ont été tués dans la maison écroulée. À cause de cela, les gens du pays nous sont malveillants, à toutes deux, mère et fille. C'est pourquoi fais tomber de la grêle jusqu'à 9 couches de pisée. Alors les derniers désirs de ta vieille mère seront satisfaits. Les gens du pays disent qu'ils te font rechercher et qu'après t'avoir tué, ils me tueront. L'un pour l'autre, mère et fils, veillons sur notre vie avec la plus grande attention. Si tes vivres sont épuisés, au pays qui fait face au nord, un nuage noir étant suspendu, la constellation des Pléiades apparaîtra. Dessous, il y a 7 maisons de cousins à toi. Après, tu trouveras autant de provisions que tu désireras. Prends-les. Si tu ne comprends pas, attendu que cet ermite habite dans ce pays, ne demande à personne d'autre. Je ne comprenais pas le sens de cette lettre. Je regrettais ma patrie, ma mère. Comme j'étais en grand besoin de vivre, comme j'ignorais le pays et ne m'y connaissais aucun parent, je versais beaucoup de larmes. Je demandais à l'ermite, « Puisque tu connais le pays, où mes cousins habitent-ils et quel est ce pays ?» L'ermite répondit, « C'est la plaine centrale du Nice. Ne connais-tu pas d'autres pays? Quel est le tien ?»« Je connais beaucoup d'autres pays, je ne connais pas celui de tes cousins. Moi, je suis de la province de Lhasa. » »« Alors reste ici un moment, je reviens tout de suite. » J'allais présenter la lettre au lama et lui demander l'explication. Le lama parcourut la lettre et me dit, « Bonne nouvelle, ta mère est bien haineuse. Ses hommes sont à peine morts et elle demande encore que tu envoies la grêle. » « Quels sont tes cousins du Nord ?» Je lui répondis. « Je n'en avais jamais entendu parler, c'est la lettre qui en parle. J'ai demandé à l'ermite, mais il ne les connaît pas. » La femme du lama, qui était marquée du signe des Tara omniscientes, lut la lettre à haute voix et me dit « Fais venir l'ermite. » Quand l'ermite fut là, elle lui fit un grand feu. Elle lui donna de la bière excellente. Puis, en levant le manteau du dos de l'ermite, elle s'en couvrit et dit « Voici un manteau agréable pour voyager de royaume en royaume. » Disant ainsi, elle allait de long en large, puis elle monta sur la terrasse de la maison. Là, elle retira l'or du manteau. Elle recousit la pièce comme avant, puis elle remit le manteau sur le dos de l'ermite. Après avoir servi à l'ermite le repas du soir, Elle le conduisit à sa chambre et lui dit « Va dire à Bonne Nouvelle de venir auprès du lama. » J'arrivai et elle me donna les 7 onces d'or. Je demandai « D'où vient cet or ?» La femme répondit « Il était dans le manteau de l'ermite. Bonne Nouvelle, tu as une mère avisée. Le pays face au nord où le soleil ne brille pas veut dire « manteau de l'ermite où le soleil ne pénètre pas. » Le nuage noir suspendu veut dire « la pièce noire et carrée qui est appliquée. » La constellation des Pléiades veut dire les points cousus avec du fil blanc. Au-dessous, les 7 maisons des cousins veulent dire les 7 onces d'or. Si tu ne comprends pas, attendu que l'ermite demeure dans ce pays, ne demande à personne d'autre, cela signifie, si tu ne comprends pas, attendu que l'or est dans le manteau de l'ermite, ne cherche pas ailleurs. Ainsi parla la femme du lama, et le lama dit, vous autres femmes, il est dit que vous êtes pleines d'artifices, et il riait. Après cela, j'ai donné 1/10 d'once d'or à l'ermite et il fut satisfait. À la maîtresse de maison, j'offris 7/10 d'once. Au lama, j'offris 3 onces d'or et je lui dis « Voici que ma vieille mère demande aussi la grêle. Veuille prendre à cœur de me l'enseigner. » Le lama répondit « Si tu veux la grêle, va trouver le lama vainqueur irrité qui enseigne le mal. » Et il me remit une lettre avec des présents. Je partis pour le village de Kyorpo dans le Yarlung. Quand j'arrivais devant le lama, je mis à ses pieds 3 onces d'or, la lettre et les présents du lama. Je lui racontai pourquoi je désirais la grêle. Il me demanda « As-tu réussi en magie ?» Je répondis « J'ai complètement réussi par la magie. 35 hommes ont été tués. » De plus, cette lettre demande la grêle. « Veuille prendre à cœur de me l'enseigner. » « Eh bien soit, » dit le lama. Et il me donna la formule. J'allais officier dans mon ancienne cellule. Dès le 7e jour, un nuage envahit la cellule magique. La foudre fulgura, le tonnerre et la planète Raoula grondèrent. Alors je pensais que je pouvais demander du doigt à la grêle. Le lama me demanda successivement, « Pour qu'il y ait lieu d'envoyer la grêle, combien haute est maintenant la moisson dans ton pays ?» Et je répondis tour à tour, « Elle est à peine en herbe. » Puis, elle est à peine haute à cacher les palombes. Le lama dit alors, c'est encore trop tôt. Puis, et maintenant où en est-elle? Je répondis, les épis viennent à peine de se dérouler. Alors il est temps d'envoyer la grêle, dit le lama. Et nous partîmes. Au pays, les anciens ne se rappelaient pas une année aussi bonne. Ils avaient fait une loi de moisson interdisant que l'on moissonnât à sa guise. Quand nous arrivâmes, on devait couper la moisson le lendemain et le surlendemain. Je m'établis dans le haut du pays. Après que j'eus énuméré les incantations, un petit nuage accourut à peine gros comme le corps d'un passereau. Je fus déçu. J'appelai les saints par leur nom. Je les adjurai par la vérité des mauvais traitements. Je jetai mon manteau et me mis à pleurer. Alors de gros nuages noirs, inconcevables, s'amoncelèrent subitement dans le ciel. Ils s'écroulèrent d'une seule masse et en un instant la grêle s'abattit sur la récolte et sur toute la vallée jusqu'à la hauteur de 3 couches de pisée. Toute la montagne fut transformée en torrent. Les gens du pays ne voyant plus de moisson sanglotaient. Aussitôt un grand vent mêlé de pluie souffla. Comme nous avions froid, mon compagnon et moi nous allâmes dans une grotte dont l'entrée regardait le nord. Nous y fîmes un feu de tamaris. Et nous y demeurâmes. Et en conclusion, un proverbe. Les personnes âgées sont les ornements du pays. Voilà qui en dit long sur les mentalités. Nous espérons vous avoir intéressé à l'histoire incroyable de Milarepa, bien entendu, hein, et à la vie très truculente du narrateur Lacham Gyal. Et vous avoir un peu partagé l'esprit, la culture tibétaine, si originale, si proche. À la prochaine émission, portez-vous bien.